Donc, roman populaire, nous y travaillons depuis le mois de septembre. Nous avons eu différents conférenciers tous les mois. Par exemple, Jean-Luc ici est venu nous parler à deux reprises du roman populaire. Nous avons eu Daniel Comper également qui est venu nous parler de son panorama du roman populaire. Nous en avons eu d'autres. Et nous avons ce soir Hossein qui vient nous parler, lui, de l'image du forçat dans la littérature du 19e siècle. Hossein a soutenu une thèse il y a 2 ans,
oui,
trois
2010,
ans, 2010, oui. Hein, sous la direction justement de Daniel Comper. Et c'est un travail extrêmement intéressant que de se pencher sur cette figure du forçat. Donc c'est Hossein qui va nous dire hein, tout ce qu'elle peut avoir de passionnant. Je vous livrerai juste une anecdote. J'ai lu il y a peu dans la littérature catholique, dans la critique catholique, qu'il était complètement intolérable de s'intéresser dans les romans à cette figure du forçat. Je pense qu'Hossein va nous dire pourquoi maintenant. Mmh. Et je le laisse tout de suite parler avec beaucoup de plaisir. On vous écoute, Hossein. Merci.
Bien, merci. Bien, bonsoir à tous. Comme l'a dit si justement Agnès, je vais vous parler un peu de... Je vais vous donner des extraits de ma thèse donc sur la figure du forçat. Ma problématique, c'était de dire qu'il existait un roman du forçat et aussi un mythe du forçat, comme on parle du mythe du double, du mythe de Don Juan. Parce que le forçat, il faut savoir que c'est une figure qui traverse tout le 19e jusqu'au début du 20e siècle, avec une résurrection sous la plume d'Henri Charrière. Et là, nous sommes dans les années 1970. Il y a trois grandes dates qu'il faut avoir en tête. Imaginons que le roman du forçat soit une longue phrase, ou ce qu'on appelle une période. Dans cette période, nous avons la protase, la période ascendante du roman de forçat, qui commence en 1835, avec le père Goriot et l'apparition de Vautrin, et qui monte jusqu'à son acmé en 1862 avec Jean Valjean, qui va installer vraiment le mythe du forçat. Ensuite, on a une apodose, ça descend jusqu'en 1925 avec Chéri Bibi. Et là, vous avez en gros la triade, la trinité du roman de forçat. Ces dates, ce sont simplement des points de repère. On se doute bien que le roman de forçat commence bien avant Vautrin et se termine bien après Chéri Bibi. En fait, la figure du forçat, c'est une figure intéressante. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est une figure historique et sociale qui glisse vers la figure littéraire et par la suite un peu mythique. Le bagne, comme vous le savez, descend de la galère royale. Le forçat est le fils du galérien. Le temps des galères s'est arrêté avec Louis XIV, qui n'avait plus de bataille navale, donc les galériens sont de marins devenus terriens et on a installé au départ les bagnes. C'était les galères qui étaient à quai. Hein. Ensuite, on a construit des murs et c'est devenu les bagnes de Brest, de Toulon et de Rochefort. Quand on parle de roman de bagnard, un bagnard digne de ce nom fait ses humanités dans les trois bagnes. Hein. Vautrin, il les a tous faits, Jean Valjean, etc. Mais quand un bagnard s'évade, il s'évade toujours du bagne de Toulon. Voilà. Alors, question, pourquoi, d'après vous, un bagnard s'évade de Toulon et il monte, bien sûr, à Paris? Parce que le jeu, là, on en parlera tout à l'heure quand on parlera de la thématique dans les romans de forçat. Vous savez qu'il y a un jeu dans le roman de forçat, dans le roman populaire, c'est que le bagnard s'évade. Il y a évasion pour envahir Paris. Il y a un jeu entre l'évasion et l'invasion. Et ça, c'est historique. C'est qui monte du sud à Paris? Question à... Pas 100 euros, je ne les ai pas, mais question. Alors, qui monte et qui envahit Paris tout seul? L'invasion de la France par un seul homme. Chateaubriand, mémoire d'outre-tombe. Qui est-ce qui envahit Paris tout seul en montant? Napoléon. Oui, Napoléon. Voilà, parce que ça, il faut toujours avoir en tête... La figure du forçat est liée à la figure de Napoléon. C'est pour ça que les bagnards s'évadent toujours de Toulon et ils montent sur Paris. En fait, ils font la marche, les misérables, Jean Valjean remonte la route Napoléon jusqu'à Paris. En fait, celui qui va vraiment installer le mythe, ça va être Balzac. Vous voyez, le forçat est plutôt associé à une figure un peu de roman populaire, parce que avec quelque chose un peu de méprisant dans le terme roman populaire, mais à l'époque, les écrivains qui écrivaient, que ce soit Balzac, Dumas, ils se posaient pas la question, je suis un romancier populaire, je suis un romancier classique. Ils étaient tous dans le même moule, et d'ailleurs, tous écrivaient pour la presse des romans feuilletons. Balzac, à Vautrin, il va donner un ancêtre, et l'ancêtre de Vautrin, d'une certaine manière, c'est Ferragus. Ferragus, C'est une nouvelle parue en 1830-1831 qui s'appelait Ferragus, chef des dévorants. Là encore, on est vraiment dans l'imaginaire populaire du peuple. C'est parce que Balzac associe le monde du bagne au monde du compagnonnage. Parce que les dévorants, comme vous savez, ce sont les fils du devoir, ce sont des compagnons. Et il associe ça. Et plus tard, on va avoir dans tous les romans populaires, le monde du bagne est associé à une espèce de monde occulte. Comme disait Moreau Christophe, la franc-maçonnerie de la paix, la charbonnerie des truands, etc. Donc c'est toujours associé, monde des sociétés secrètes, avec le monde de la paix. Et là, Balzac, avec Ferragus, chef des dévorants, installe déjà une idée de ce que seront les forçats du roman populaire. L'autre chose qui est intéressante aussi par rapport à cette idée de compagnon et de forçat, c'est quand on a fermé les bagnes de la métropole, hein, on s'est intéressé à la Guyane, et notamment à Cayenne. Alors Cayenne, bien sûr, ça vient des cailles, les caillas, c'est les petites criques. Mais ce qui est intéressant, c'est que Cayenne, une Cayenne dans le monde du compagnonnage, c'est un lieu secret où les compagnons se réunissent. Donc, bon, là il y a un côté un peu lacanien, c'est des trucs, des espèces d'analogies, mais c'est quand même curieux qu'il y ait le bagne d'outre-mer Cayenne qui est associé à cette idée de compagnons et ensuite de forçats qui se réunissent là. Non seulement Balzac avec Ferragus associe le forçat au monde du compagnonnage, mais autre chose qui est intéressant dans cette nouvelle de Ferragus, c'est que Ferragus, le drame de Ferragus, c'est le drame d'un père. Avec sa fille, il a des problèmes, il essaye de l'aider, il va même jusqu'à tuer un de ses amants en lui tirant les cheveux, l'empoisonnant. Et le drame du forçat, dans la vie privée, quand il s'évade, c'est le drame de la paternité. C'est lié, voilà. On va voir avec les différents forçats que je vais vous nommer. Ensuite, celui qui pose, donc, c'est Vautrin. Ce qui est intéressant dans la figure de Vautrin, c'est que Vautrin, on ne le voit jamais dans le bagne. On sait qu'il s'est évadé de Rochefort, mais on ne le voit jamais. Alors pourquoi Vautrin est intéressant? Parce que Vautrin est inspiré par la figure réelle, historique de Vidocq. Le premier grand mythographe du monde du bagne et du forçat, c'est quand même Vidocq dans ses mémoires. Les mémoires de Vidocq sont aussi associées d'une certaine manière à Balzac. Alors au départ, c'était un ami de Balzac, François l'héritier de Lain, qui devait écrire les mémoires de Vidocq, parce que Vidocq n'a pas écrit, hein, il avait ce qu'on appelait des teinturiers. Il raconte ça très bien dans ses mémoires, qu'en fait, un ami d'un grand romancier, il ne cite pas Balzac, n'a pas tenu son engagement, et il a dit, soi-disant, qu'il a réécrit tout seul. Bon, la vérité, c'est que c'est Balzac qui a réécrit la mémoire, de même que, comme vous savez, Balzac a aussi écrit les mémoires de Samson le bourreau, voilà, parce que Balzac était fasciné par ce monde-là, le monde du crime. Donc, Vidocq va devenir, sous la plume de Balzac, Vautrin. Bien qu'il soit ami, Vidocq, dans ses mémoires, raconte ses grandes aventures galantes. Apparemment, Vidocq, c'était un homme à femme. Sous la plume de Balzac, il va être plutôt très ambigu. Et là aussi, il nous dévoile autre chose du monde du bagne, cette espèce d'ambiguïté qui fait aussi que le forçat est une figure très intéressante. C'est cette espèce d'ambiguïté, ce jeu entre, sur ses mœurs, le forçat est toujours, à part Jean Valjean, mais le forçat est toujours associé à une espèce de double, un comparse. Soit un comparse qui le suit, par exemple, dans les aventures de Chéri-Bibi, Chéri-Bibi est toujours flanqué de son La Ficelle. Dans l'auberge des Adrets, Macaire est associé à Bertrand. Rocambole est associé à Milon, qu'il a rencontré au bagne de Toulon, etc. Il y a toujours une espèce de double, et avec ce double, c'est très ambigu, parce que là aussi, dans le roman du forçat, de même que la paternité est trouble, la sexualité du forçat est trouble, enfin chez certains. Donc, Vautrin est intéressant parce qu'il, en gros, il a installé ce monde du bagne, parce que quand on lit Le Père Goriot, ou bien quand on lit Splendeur et misère des courtisanes, non seulement il y a l'histoire, la narration, la fiction, le côté un peu romanesque, mais dedans, Balzac va nous parler donc du monde des bagnes, qu'il appelle le pré. Il va nous parler du troisième sous-sol, parce que le troisième sous-sol, c'est Balzac qui invente, c'est pas Victor Hugo dans Les Misérables. Il va avoir un rôle un peu didactique, un peu pédagogique par rapport au bagne. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que la plupart des écrivains qui ont écrit sur le bagne passaient leur week-end ou leurs vacances, ils allaient visiter les bagnards. Lisé par les grèves et par les chants de Flaubert. Alors Flaubert, il se balade à Brest, il décrit le bagne et puis il décrit une espèce de figure de bagnard, un colosse, c'est très pittoresque. Surtout de la part de Flaubert, parce qu'on voit une espèce de fascination, alors que dans son dictionnaire des idées reçues, il dit que le forçat est toujours un être ingénieux, plein de ruses et de fiel, qui s'évade toujours, enfin, schématiquement. Ouais. Mais en une phrase, Flaubert définit le forçat. En fait, ma thèse, quand j'y pense, aurait pu tenir sur un post-it, mais bon. Donc, avec Vautrin, outre le monde du bagne, on apprend donc ce monde-là, on monte et on arrive à un autre personnage qui n'est pas vraiment un bagnard au sens précis du terme, parce qu'il n'a pas été au bagne, mais il a connu l'épreuve de l'emprisonnement. Il s'agit du comte de Monte Cristo. Il est emprisonné au château d'If. Monte Cristo est au bagne, ce que l'Émile de Rousseau à l'éducation. Oui, on en prend un et ça fait pour tous. Et en fait, Monte Cristo tout seul, on le voit au début, c'est Edmond Dantès, une espèce de marin complètement niais. Et il devient le comte de Monte Cristo, un surhomme nietzschéen avant l'heure, qui va devenir quasiment maître du monde. Et là, c'est intéressant parce que le bagne, qui doit son étymologie au mot bain, quand on est plongé dans le bain, comme en alchimie, il se passe une transmutation. Vous voyez, le bagne, c'est le lieu de la transmutation. Comme quoi c'est bien fait, le bagnard ne s'évade que quand il est bien transmuté. En surhomme, il ne s'évade pas avant, il pourrait, parce que, vous savez, au bagne, ce qui est bien, il y a des tours. Hein. C'est bien fait, chacun son tour, on vous dit, voilà, telle année, ça sera toi, toi et toi. Jean Valjean, c'est drôle, parce qu'il avait écrit au début, quand vint son tour, Jean Valjean s'évada, il fut repris la première fois, parce que bon, il n'était pas encore bien dégrossi. Au bout de trois fois, il avait compris le truc, parce que le bagne, c'est comme une espèce d'Athanor. On arrive niais, ou alors très méchant, comme Rocambole, et pof, on marine bien dans le bain. Bon, pour Rocambole, 10 ans, au bout de 10 ans, il devient bon, c'est l'ange de la bonté, et en s'évadant. Et Jean Valjean, qui est une espèce de paysan inculte, apprend à lire, apprend à écrire, devient l'ange que l'on sait. Le bagne, dans le roman, est très peu décrit, à part deux, trois choses, toujours les mêmes. Les bagnards, quand on les voit très peu travailler, casser des cailloux, mais on les voit plutôt en temps de pause. Et là, ça permet à l'écrivain de montrer ce qu'il connaît sur le bagne. Alors il dit, ah voilà, là on a un bonnet vert, celui-là il est à temps. Le bonnet vert à perpétuité, le bonnet rouge va sortir bientôt. Ah, il y en a un qui a deux chaînes au pied, il a fait une bêtise au CVD, donc on l'enchaîne. L'autre, il est enchaîné à un compagnon de chaîne. Ça permet de voir quelle est la source de tous ces auteurs. Alors, pour les auteurs comme Dumas, Victor Hugo, il y a une source sûre, c'est le docteur Hubert Lauverne qui a écrit en 1841 Les Forçats, où il décrit le monde des forçats à Toulon, et ça a été une source d'inspiration. Deuxième source d'inspiration, Moreau Christophe, dans Les Français peints par eux-mêmes, qui a écrit un article fabuleux sur les forçats et un autre sur les prisons. Et un peu plus loin, vers 1860, ce sera Zacone qui va écrire Les bagnes, les prisons. En fait, tous ces auteurs romanciers, ils se contentent de pomper ce qui a été écrit, ils le mettent, et ça donne le côté authentique du roman en question. Donc je vous ai dit tout à l'heure que le monde du bagne est très peu décrit. En revanche, celui de la prison est bien décrit. Peut-être parce que les auteurs pensent que, comme les prisons, ce sont des prisons qui se trouvent à Paris, comme la Roquette, la Force. Surtout la prison de la Force, peut-être parce que c'est lié au mot forçat, force, il y a peut-être un jeu là. Comme c'est aussi dans Paris, peut-être, pour le lecteur, ça lui donne un frisson. Donc on décrit bien ce monde-là. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le héros rentre et sort dans la prison. C'est-à-dire que la prison, dans le roman populaire, c'est un lieu de passage, alors que le bagne, c'est un lieu d'initiation. Le héros, quand il va au bagne, c'est pour s'initier. La prison, c'est juste, il rentre, il sort. Par exemple, dans les mystères de Paris, le Chourineur, il rentre en prison, c'est pour aider un jeune homme qui est menacé par la bande du squelette. Rocambole, pareil, ils connaissent tous les trucs. Et ensuite, on arrive à ce moment, l'acmé, donc à Jean Valjean, Les Misérables. Comme vous savez, Les Misérables, c'est quand même à peu près 1000 pages. Quand on enlève toute la partie didactique, toute la partie historique, toute la partie philosophique, on a à peu près 600 pages et 600 pages de pur roman populaire. Bon, donc le père Hugo, je veux bien que ce soit le plus grand auteur classique, mais quand même, son plus grand succès, il le doit au roman populaire. Jean Valjean, c'est quand même un surhomme, et sa fameuse pièce qui lui sert aussi de lime, couteau. Bon, il avait inventé le couteau suisse avant tout le monde, hein. MacGyver avant l'heure. Il escalade les murs, il soulève les charrettes. C'est Atlas, c'est une force de la nature. Ce qui est intéressant là, dans le roman de Victor Hugo, c'est ce côté le roman populaire. Et l'autre chose, c'est que, vous voyez, Jean Valjean, c'est plutôt un personnage très taciturne. Il parle pas, il est quasiment mutique, il parle très peu. Et vers la fin du roman, il y a un seul passage qui est vraiment un morceau de bravoure, où là, il donne une leçon, et il donne une leçon à qui ? Une espèce de jeune délinquant qui s'appelle Montparnasse. Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, le type, il parle jamais, jamais. Et le seul à qui il fait la leçon, à qui il parle pendant les heures, il lui dit c'est pas bien, là, hein, il s'appelle Montparnasse. Mais oui, bon sens, c'est ça. Puisque Hugo, qui se voulait prophète, l'écrivain a un rôle social, etc. Bien sûr, à qui il doit faire la leçon ? À ceux qui prônent l'art pour l'art. Juste l'acte gratuit, on n'a pas besoin de trucs. Les Parnassiens, l'autre s'appelle Montparnasse. Voilà le rôle, et puis le côté, bien sûr, forçat, figure un peu mythique, où Victor Hugo voit en Jean Valjean Atlas, Hercule, j'en passe, et des meilleurs. Et puis il y a le jeu avec, vous savez, les lettres Jean Valjean, le J et le V qu'on retrouve dans Javert. On voit aussi une autre figure intéressante dans le roman populaire, c'est que le policier est en fait le double du forçat, le double du délinquant. Il n'y a pas de forçat de bandit sans un policier qui est son double. Vautrin, déjà, il était en butte avec Peyrade, Corentin. Dans Chéri Bibi, il est en prise avec le commissaire Costaud. Dans Chéri Bibi et Cécilie, il parle avec quelqu'un et il parle de Costaud. Il dit le commissaire Costaud, vous savez pas qui c'est le commissaire Costaud, enfin. Commissaire Costaud, c'est Javert, c'est mon Javert à moi. Voilà, c'est intéressant le jeu. On le voit bien avec Gaston Leroux, le côté ludique, il s'amuse avec l'intertextualité. Le jeu entre la police et le monde de la pègre, puisque, comme vous le savez, Vidocq, hein, toujours lui, Vidocq, c'est celui qui, de forçat, devient policier. Pareil, Vautrin aussi va faire le même parcours que Vidocq. Hugo, il s'est dit, non, je vais découper en deux, je vais mettre d'un côté Jean Valjean, de l'autre côté, je vais mettre Javert. Et ça, on va le retrouver après, dans toute la suite, ce qui va donner lieu après au roman policier, où pareil, il y a ce côté de jeu de miroir. 1862, c'est une date quand même importante, parce que 1862, c'est aussi l'année où est paru en Russie Souvenir de la maison des morts. Donc c'est quand même intéressant, parce que là, Dostoïevski nous fait part de son expérience du bagne sibérien. Mais c'est quand même curieux, ça tombe la même année que Les Misérables. Donc après cette acmé, donc on va redescendre. L'autre grande date, c'est 66-68 avec Rocambole. Il y a deux phases chez Rocambole. Le Rocambole méchant, génie du mal, il rentre au bagne, la rédemption, et là il s'évade du bagne, et quand il s'évade, c'est pour faire le bien autour de lui. Ensuite, on descend à une autre partie vers les années 70-80, là donc je vais rejoindre ce que disait Agnès juste avant. Dans la littérature populaire, il y a toujours donc des forçats, des filles de mauvaise vie, des enfants abandonnés, etc. Et cette presse marche bien, le peuple aime bien lire ce genre d'histoire. Sauf que ça ne plaît pas à l'Église. Et l'Église donc crée son propre service de presse, qui s'appelle la bonne presse. Et là, on va changer la donne. On va trouver par exemple un auteur comme Paul Maurice, Jules Dagrève, enfin qui écrivait pour cette presse-là, la presse catholique. On va trouver le forçat, le secret du forçat, la fille du forçat. Et là, ça change. Parce que le forçat, dans la littérature catholique, n'est plus un surhomme nietzschéen ou steinerien, ne s'évade plus. Comme un gentil garçon, il va au bout de sa peine. Il expie. Alors, bien sûr, dans la bonne presse, on n'est plus dans le bagne métropolitain, on est dans le bagne. C'est pas la Guyane, c'est plutôt Nouméa. Il y en a un peu aussi à Cayenne, mais très loin, dans les îles. Et là, le forçat va au bout de sa peine. Souvent, alors quand c'est un jeune homme, il est rejoint par sa maman qui va au bout avec lui. Alors au début, il aime une jeune fille, enfin il y a une histoire, un drame, il va tuer quelqu'un, mais c'est jamais lui qui a commencé. Drame de la jalousie, enfin etc. Bon, il revient. Quand il revient, sa fiancée s'est mariée, mais c'est pas grave parce que au bagne, il a rencontré la foi, il a compris. Et quand il sort du bagne, c'est pour entrer souvent dans les ordres, parce qu'il devient soit missionnaire, donc il va évangéliser les Kanaks. Ou alors il rentre en France et là il rentre dans les ordres, un autre cloître, et il termine sa vie comme un saint. Si on veut être honnête, déjà Victor Hugo avait quand même bien ouvert le chemin avec son Jean Valjean. Hein, parce que comme Jean Valjean, comme aussi la plupart des héros hugoliens, Jean Valjean est vierge. Hein, c'est une espèce de pureté. Hein, on voit ça avec Gwynplaine, avec Gauvin, c'est des espèces de saints. Même si il y a dans Les Misérables une espèce d'ambiguïté entre Cosette et Jean Valjean. Il y a deux pages assez curieuses, mais bon. Et on arrive à Chéri Bibi. Alors Chéri Bibi, c'est à la fois pastiche et parodique. Le roux qui s'amuse avec tous les clichés, tous les mythes, en glissant quand même des choses très intéressantes. Par exemple, quand Chéri Bibi sort, le premier, hein, Les Cages Flottantes, sort en 1913. 1913, c'est la période de la bande à Bono, l'anarchisme, les terroristes, tout ça. On voit Chéri Bibi qui est sur le bateau, le Bayard, qui doit l'amener en Guyane. C'est pour ça que le titre s'appelle Les Cages Flottantes, puisque là, ça se passe pas au bagne, mais ça se passe dans le bateau qui les amène au bagne. Il est face au commandant, après avoir pris une mutinerie, il prend le pouvoir, et il est face au commandant du Bayard. Et là, il lui dit cette chose incroyable. Il lui dit, voilà, Marx, Kropotkin, c'est des idiots, moi, je suis pas un anarchiste, je suis capitaliste. Et ça, c'est très intéressant, parce que ce soit les romans populaires du début du siècle, début du 19e, où il y a un forçat, c'est que le forçat, quand il s'évade, il rentre pas dans le peuple, enfin le héros, hein, devient un bourgeois quand c'est pas un aristocrate. D'abord, il rentre riche parce que quand il s'évade, il trouve de l'argent. Bon, alors des fois, c'est par un don du ciel, comme pour Monte Cristo. Jean Valjean, lui, il crée des verroteries, il devient très riche. Mais ils sont pas dans le peuple, ils sont toujours au-dessus. Bourgeois ou alors noble. Et là, c'est quand il s'évade, c'est pour envahir, c'est justement pour une espèce de contre-pouvoir au pouvoir en place. Bien sûr, quand on lit Monte Cristo ou d'autres de cette période, on voit bien que c'est des livres à charge contre la monarchie de Juillet ou bien la Restauration. Avec Zola, ou ça sera la figure de Napoléon III. Quoique sous Napoléon III, c'est ambigu parce que c'est plutôt des personnages qui sont plutôt pro. Enfin, c'est très ambigu par rapport à l'idéologie en place. Le forçat, il est quand même porteur d'une idéologie. Et croyez-moi, c'est pas une idéologie communiste. Le peuple, si vous voulez, c'est comme une espèce de nébuleuse. Il y a très peu de romanciers populaires qui parlent du peuple. Bon, déjà parce que la plupart des romanciers populaires, aucun qui vient du peuple. À part un, Paul Alexis, lui, il était ouvrier. Mais sinon, les autres, bonne bourgeoisie. Et souvent, il y a toujours ce côté un peu, le peuple, c'est un bon enfant, on l'aide. En fait, on lui fait la charité. Hein. On l'aide pas à prendre conscience de sa situation. Chéri Bibi, avec cette espèce d'aveu qu'il fait, je suis capitaliste, il y a vraiment cette idée. On voit bien que dans le roman du Forçat, ça tourne autour des mêmes thématiques. C'est-à-dire, le roman de Forçat, si on veut, c'est un roman qui est un peu systémique. Il y a un système des personnages, un système du temps, un système de l'espace. Alors bien sûr, il y a le lieu de l'enfermement, lieu de la liberté. Quand on est à Paris, soit c'est les bas-fonds, soit c'est la haute société. Il y a très peu de milieux intermédiaires. Pareil avec les individus. Soit c'est d'un monde interlope, ou alors c'est le monde de la richesse, de l'aristocratie. Mais on voit bien le jeu de miroir parce que ceux d'en bas ne valent pas ceux d'en haut. Là, on est bien dans ce principe qu'a bien défini Hermès Trismégiste, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Parce que dans Les Mystères de Paris, on voit bien que le notaire Ferrand est pire que la Chouette ou bien le maître d'école. On voit bien ce jeu de miroir, cette inversion. Donc on a le personnage qui subit donc une transformation. Le personnage a un problème, soit un problème avec sa paternité. Jean Valjean n'est pas le père de Cosette, il aurait bien, mais il se comporte comme son père. Chéri Bibi, dans le dernier épisode, le coup d'état de Chéri Bibi, dans Chéri Bibi et Sicily, il a un fils avec Cécilie, mais le problème c'est que, vous savez, dans Chéri Bibi, Gaston Leroux nous parle de la chirurgie esthétique. Après une opération esthétique, on enlève la peau du marquis du Touché et il lui a mis le visage. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'enfant qu'il a avec Cécilie, c'est sous le masque, le visage du marquis du Touché. Donc là, on est dans le mythe d'Amphitryon, de sosie, etc. Problème de paternité parce que lui, c'est un bagnard. Son fils croit que c'est un marquis. Paternité difficile. Vautrin, pareil. Que ce soit avec Rastignac ou Rubempré, il se comporte comme un papa, hein, papa Vautrin, sauf que le papa, c'est espèce de papa socratique, hein, rôle de papa. Ou alors, le problème de la paternité, il se double parfois d'un problème de filiation. Pareil avec le rapport fils-père. On le voit avec Rocambole et son espèce de père adoptif, mentor, Sir Williams. Williams, will I am, je suis la volonté, l'espèce de vouloir, le côté, vous voyez, toujours vouloir, pouvoir. Rocambole tue son père adoptif, il devient lui-même. Alors oui, Rocambole, c'est encore plus fort, parce que non seulement il tue son père adoptif, mais il tue aussi sa mère adoptive, maman Choucard. Il tue tous ses parents, donc il devient lui-même. Il s'auto-engendre. On rencontre ce problème avec la paternité. Dans les romans de la bonne presse, là aussi, le forçat, donc il va au bout de sa peine, et il rentre dans les ordres. Il devient un père, mais un père de l'Église. Autre grande thématique dans le roman de Forçat, c'est le thème de la société secrète. Parce que dans tous ces romans populaires, il y a toujours une société secrète. On le voit chez Jean Valjean, il y a la société secrète des bandits Potron-Minette, l'ABC, la fameuse scène de la barricade avec Marius, etc. Dans Vautrin, il y a la société des 10 000, les grands fanandels. C'est un phénomène vrai, hein. C'est des choses vraies. C'est-à-dire que dans les bagnes, dans les trois bagnes, hein, quand on lit notamment chez Zakon, il y a des sociétés secrètes dedans où, quand un bagnard c'est son tour et quand il a l'argent, on organise son évasion. Alors c'est ça qui est curieux, c'est que l'évasion se fait de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a tout un circuit et on le fait évader et ensuite il y a le relais dehors. C'est vraiment un jeu de société un peu secrète. Ça s'explique aussi parce que cette époque du 19e était aussi fortement perturbée par le compagnonnage. Parce que le compagnonnage, il y avait des rivalités entre les dévorants, les enfants du père Soubise et les enfants d'Iram. Enfin, il y a trois ordres de compagnons, et quand ils se rencontraient, il y avait des bagarres, des rixes. C'était, comme l'avait si bien justement dit Chevalier, classe laborieuse, classe dangereuse. Hein. De toute façon, le peuple, la pègre, ça faisait qu'un. Et c'est pour ça que ce monde-là, alors c'est peut-être aussi lié à Balzac involontairement, c'est que déjà d'associer Ferragus, le bagnard, au dévorant. Et par la suite, on voit bien tout ce jeu d'espèces de côté, ce que Moreau Christophe appelle dans son livre sur la prison, la franc-maçonnerie du crime. Parce qu'il y a des rites secrets, des rites de passage, etc. Et d'ailleurs, on voit bien par exemple l'arrestation de Vautrin dans Le Père Goriot. Le policier Gondureau explique un personnage et lui explique, voilà, mais c'est un bagnard, vous voyez, quand on lui tape sur l'épaule, vous allez voir apparaître les trois lettres, hein, GAL. Ou alors TF, travaux forcés. Le forçat, c'est vraiment qui est associé quand même au corps. Il est marqué, tatouage, marqué jusqu'en 1860. Après, on marque plus les forçats. Pareil, ils font plus le chemin à pied, on les amène en voiture. Hein. Ça se modernise. Hein. Rocambole, le bagne de Toulon, c'est intéressant parce qu'ils sont toujours assis, ils racontent leur histoire. Il y a un vieux forçat, mais vraiment très vieux. Ouais, mais vous n'avez pas connu ça. Moi, je suis marqué, j'ai descendu de Bicêtre à pied, vous arrivez en voiture, tout, vous êtes des enfants gâtés. En fait, c'est assez drôle de voir de mon temps. Quoi. Donc, il y a la marque. Le forçat, pour ne pas le reconnaître, souvent, il se défigure, il se jette du vitriol, hein, notamment le maître d'école, il se défigure pour ne pas qu'on le reconnaisse. Mais le problème du forçat, on le reconnaît toujours. Pourquoi ? Parce que, c'est déjà dit dans Splendeur et misère des courtisanes, mais c'est repris après dans Tous. Le forçat, comme il tirait à la chaîne le boulet, il le claudique, il boite. Une figure satanique, c'est un peu le diable boiteux. Si vous voulez, le forçat, il repose sur trois grands mythes. Le mythe de Napoléon, le mythe du diable et le mythe du surhomme. Mais le mythe du surhomme, d'une certaine manière, c'est le forçat qui l'engendre. Parce que comme vous savez, Nietzsche, c'est parce qu'il lisait des romans populaires qu'il a créé son concept de surhomme. En revanche, les auteurs de romans populaires, notamment Dumas, c'est parce qu'ils avaient lu Max Stirner qu'ils ont créé leur surhomme. Hein, parce que Monte Cristo, comme disait Vittorio Frigerio, c'est quand même un héros steinerien. 1841, c'est une date, c'est l'époque où Steiner écrit L'unique et sa propriété. Et dans L'unique et sa propriété, il y a quand même cette phrase fabuleuse, étant un état à moi-même, je pratique pour moi-même la raison d'état. Et ce que font tous les forçats, hein, ce côté individualisme forcené. Napoléon, ils refont le chemin, ils ont ce côté conquérant, ils forment des familles, des clans, hein, le côté Bonaparte. Ensuite, le côté diable, parce que il y a ce côté un peu satanique. Satanique, c'est plutôt du côté Vautrin, etc. Ben, Jean Valjean, lui, il est plutôt dans l'angélisme. Et le côté, donc, surhomme, bien au-dessus des autres. Par rapport au corps, donc, le boitement, il se défigure, et ce fameux tatouage. Il y a le marquage, ou alors il y a ce que Jean Genet appelait les fleurs du bagne. Hein. Les bagnards se tatouent, ils se tatouent la peau. Et c'est un peu comme un roman. À travers ce que l'on voit dans la peau du bagnard, c'est comme un palimpseste. C'est un peu comme si L'auteur du roman, à travers la figure du Bayard, il donnait sa propre définition du roman, ce côté palimpseste. On lit un texte sous un autre texte. Sous la peau, il y a une autre histoire. Ça, c'est les thèmes, les thématiques. C'est les motifs qu'on retrouve et qui sont toujours récurrents. On retrouve donc le motif de l'argent, le motif du jeu. Il y a un côté joueur chez le forçat, prédateur, ce qu'on veut, mais il y a le côté joueur. Hein. Par exemple, Vautrin, le premier discours qu'il fait à Rastignac et le discours qu'il va faire à Rubempré, il y a toujours des termes de jeu. Hein. Il va lui parler de la bouillotte, il va lui parler des jeux comme ça. Chez Rocambole, pareil. Il y a aussi cette idée du jeu. Par exemple, au début du bail de Toulon, Rocambole est attaché donc à Milon, une espèce de colosse qui va après le servir dans ses prochaines aventures. Ils sont au bagne, à l'ombre, tous les bagnards se réunissent, il y en a un qui raconte des histoires, il y a toujours cette mise en abîme, l'histoire dans l'histoire, et Milon dit « ouais, j'aimerais bien écouter tout ça », et Rocambole, non, alors il dit « si tu veux, je te joue à la partie », bon, et il joue, il faut une partie de bouillotte. Et pareil avec Chéribibi, donc motif du jeu, motif d'argent et le motif de la nourriture. Plus flagrant, c'est chez Monte Cristo, parce que vous savez que Monte Cristo ne mange jamais. Il mâche, et il mâche quelque chose qui n'est pas bien, hein, ne refaites pas ça chez vous, il mâche du hashish, hein, c'est des trucs, ça l'aide, de, voilà. Et ses ennemis, il leur donne à manger, mais il ne mange pas avec eux. Pourquoi ? Parce que Monte Cristo, en tant qu'homme d'Orient, il ne mange pas avec ses ennemis. Bon, en revanche, Chéribibi, c'est un ogre, hein, lui, ce qu'il perd, c'est la morue à l'espagnol, donc le motif de la nourriture qu'on retrouve comme ça. Donc 1825, c'est les grandes périodes du roman du Forçat. Ah, ensuite, ça se perd. Cayenne va fermer dans les années 30, 20. Le dernier partira en 42. C'est plutôt le temps, dans cette époque, du reportage. On fait des reportages sur le bagne. Et le plus grand, c'est celui de Albert Londres. Un très bon livre qui s'appelle « Au bagne », suivi de « L'homme qui s'évada ». « L'homme qui s'évada », c'est Dieudonné, un compagnon de Bonneau. Il a toujours dit qu'il était innocent, que lui, il n'a jamais tué. Il conduisait, mais bon. Donc Dieudonné a été au bagne et il s'est évadé. Après, il a aussi écrit son propre livre. Londres va le rencontrer donc au bagne. Ensuite, il va le rencontrer au Brésil, où il est en cavale. Et après, il le rencontre à Paris. Londres est quand même fasciné par Dieudonné, sa cavale. Et il rencontre à Paris, installé rue Saint-Antoine, et il a une entreprise de menuiserie, donc un bourgeois. Ah, Londres, tout le mythe s'effondre. Il a des mots plutôt durs, il était déçu. En fait, il s'attendait à voir une espèce d'aventurier, quoi. Et il voit un bon bourgeois qui attend, et bon. Et là, ça casse le mythe. Donc, Londres, bien qu'il fasse un reportage sur le bagne, quand même, il entretient cette mythologie du forçat. Mais le mythe va être repris par, certainement le plus grand de tous les mythomanes, Henri Charrière, dit Papillon. Dans l'avant-propos, il dit « Oui, j'étais à Caracas, et dans une vitrine, j'ai vu l'astragale d'Albertine Sarrazin. » Il dit « Ouais, je prends le bouquin, je tiens, elle raconte ses mémoires de prison, si Titine l'a fait, moi je peux le faire. » Bon, déjà, c'est un peu bizarre que ça lui vient après le succès d'Albertine Sarrazin. Déjà, bon, en fait, il faut savoir que tout ce qu'il écrit dans Papillon, eh ben c'est faux. C'est la pure mythomanie. Quand il écrit Papillon, donc, nous sommes en 69, 70, et à la même époque, il y aura deux livres qui sortiront, un de Antoine Métivier, qui était gardien là-bas, donc il raconte que Papillon, tout ce qu'il a dit, c'est faux. Et l'autre, c'est un livre de Gérard de Villiers, père de SAS, qui a écrit Papillon épinglé. Il a suivi le même parcours, il a interrogé, parce qu'Henri Charrière, c'est un type qui, soi-disant, a tué un mac à Pigalle. Henri Charrière, en fait, est fils d'instituteur, donc il a une certaine culture par rapport aux autres. Et dans son livre, on voit bien qu'il a lu Albert Londres. Et surtout, et c'est là où je me dis quand même si c'est un gros mythomane, il a quand même lu Jack London. Et vous savez quel est le récit de Jack London il a lu ? Il a lu Le Vagabond des Étoiles. Ça, c'est un livre fabuleux de Jack London. Jack London raconte, à travers la vie de deux condamnés à mort, le pénitencier de Saint-Quentin et un autre pénitencier. Il raconte l'histoire d'un pénitencier. Et notamment, cette expérience qu'ont vécu ces deux condamnés à mort, parce qu'à un moment, ils ont fait des émeutes, enfin, des choses, et là-bas, à Saint-Quentin, pour les calmer, on leur mettait la camisole de force, on les enfermait dans une cellule, sans manger, sans boire, et on les laissait là, deux, trois jours, comme ça. Et ils font l'expérience, leur corps s'échappe, et ils vivent des expériences du corps qui sort, corps astral. Henri Charrière, il s'est pas dégonflé, il s'est dit, bon, personne n'a lu, et carrément, hein. Le plagiat total. Il reprend carrément ce qui est écrit dans Le Vagabond des Étoiles, comme quoi lui, son corps s'est échappé, il a survolé. Bon, enfin bref. Bon, le gardien a dit qu'à Cayenne, on ne mettait pas les types, comme il a dit, les fortes têtes. Bon, on les enfermait, on les mettait au mitard, une semaine, voire deux quand c'était un cas. Mais lui, il a tenu presque un mois et demi au mitard. Le gars, c'est un surhomme. Mais la chose qu'il faut reconnaître, c'est quand même qu'il a donné un second souffle au roman de Bagne. Ce qui tombait bien avec Henri Charrière, cette espèce d'opportunité, comme quoi il voyait bien les choses, c'est que ça tombait à l'époque du succès d'Albertine Sarrazin, et de l'autre côté de l'Atlantique, on s'intéressait aux œuvres de Karel Chessman. C'est-à-dire que là, le roman de Bagne, de Forçat, a fait place à un autre roman, qui est le roman de prison. Bien sûr, il y a Albertine Sarrazin avec l'Astragale, ses journaux de prison. C'est Sarrazin qui est une enfant de la DAS adoptée. Elle a été adoptée par des enseignants. Les gens comme Charrière qui disent que ce sont des vrais voyous qui ont vécu sur le terrain, ils ne peuvent pas raconter les choses comme ça. Il faut quand même un minimum d'éducation et de culture. On voit bien Knobel Peace, etc. Mais bon, c'est plutôt des témoignages. Mais la littérature de prison... récit ou alors de fiction, et un type qui est intéressant là, c'est Jean-Marc Rouillant, Action Directe, qui a écrit des choses plutôt intéressantes. C'est surtout aux États-Unis où vraiment il y a une vraie littérature de la détention.
Est-ce que Charrière a été confondu?
Ah bah oui.
En fait, on a fait un film de son livre.
Quand on dit une rumeur, on a beau dire la vérité après, ce qui reste, c'est la rumeur. Bon, son succès, c'est quand même un best-seller. Bon, après, ça, on garde que le côté fictionnel. Par exemple, le livre de Gérard de Villiers et l'autre livre du Garde, là, c'est sorti peu de temps après. Lui, il sort son livre en 69, 70. En 72, 71, il sort. Lui, il fait un deuxième livre, Charrière, qui s'appelle Banco, où il raconte ses histoires au Venezuela, etc. Aucun succès, parce que les gens, ils mordaient plus. Voilà, ça lui a porté quand même préjudice, parce qu'ils ont vu que c'était un mythomane.
Et autrement, vous parliez tout à l'heure d'Albert Londres, mais le reportage qu'il avait fait, c'était pour surfer sur la vague des romans...
Non, parce que Londres, c'était pour le Petit Parisien, plusieurs séries. Il prenait un thème, la prostitution en Argentine, il va en Argentine et il fait un livre dessus. L'exode des Juifs, il fait le Juif errant et les revenus, les trafiquants d'esclaves faisaient...
C'était toujours lui qui choisissait,
parce que je me souviens... Oui, c'est lui, il avait le...
Ouais. Celui qui s'appelle Chez les fous, là. Ouais.
Dante n'avait rien vu. C'était le reportage, ça l'intéressait. Ouais.
Oui, est-ce qu'il y a un lien donc avec d'autres littératures ailleurs qu'en France? Parce que là, on reconnaît aussi le Forçat des grandes illusions, qui est pareil, a un problème avec la paternité, et puis qui fait fortune en Australie. En fait.
Mais là, Dickens rend hommage à Balzac. Lui, il appelle De grandes espérances. Il fait référence à Illusion perdue. Voilà, Magwitch, le Forçat, oui, c'est Vautrin.
Oui, moi, je voulais savoir si cette rédemption que vous décrivez, ou fausse rédemption, je ne sais pas,
rédemption.
Dans le roman populaire traditionnel, correspond à un discours politique de l'époque? Ou si c'est au contraire une critique déguisée? Parce que je suppose que le discours officiel, c'est que le bail, normalement, va améliorer. Et est-ce que c'est vraiment pour aller dans le même sens, ou est-ce que c'est une sorte d'ironie déguisée?
C'est pas des révolutionnaires. Ils vont quand même dans le sens. Parce que cette époque-là, du 19e siècle, c'est quand même un siècle très porté sur l'hygiène. Hein. L'hygiénisme, c'est l'époque aussi de Bentham, le Panopticon. Ils veulent tenter les prisons. Il y a un vrai discours sur la prison, sur le bagne. Pour eux, ils pensent vraiment que le bagne peut les aider. D'ailleurs, quand je vous parlais en 1841, les forçats du docteur Hubert Lauverne, c'est un docteur qui était à la tête, et souvent les directeurs de bagne étaient des médecins, des hygiénistes. Oui, ils pensaient que ça faisait du bien, alors que bien sûr, c'est totalement faux. En fait, c'est paradoxal. D'un côté, dans le même livre, il peut avoir les deux discours, comme quoi c'est quand même l'école du crime, où on apprend des mauvaises choses, et de l'autre côté... Ça a du bon. Par exemple, Jean Valjean, il apprend à lire, à écrire au bagne, parce que c'est les pénitents gris qui lui apprennent et qui apportent la bonne parole aussi. Voilà. Donc il y a ce double discours. Il y a quand même aussi le fait que, quand même, quand le forçat s'évade, il est quand même du côté de l'argent, de la bourgeoisie. Mais aussi quand même une dénonciation aussi de la restauration, de la monarchie de Juillet. Dans certaines figures, certains personnages, on voit bien de qui parle. Quand Frédéric Lemaître a joué l'auberge des Adrets, hein, le personnage de Macaire, il s'était grimé en qui? Le visage qu'il a donné, c'était Louis-Philippe. Scandale. un bagnard, Louis-Philippe. Bon, déjà, on voit bien le côté aventurier, dénonciation. Parce qu'il y a ça aussi, il y a une espèce de dénonciation aussi de ces chevaliers d'industrie. Par exemple, dans le comte de Monte Cristo, c'est flagrant. On dit à un moment, le comte de Monte Cristo, il se fait passer pour un comte de hasard parce qu'il achète son titre de noblesse. Et on voit bien qu'il y a une espèce de guerre, de croisade entre lui et les trois scélérats qui ont mis prison, parce que Danglars, il est baron Danglars, il a une croix qu'il a eue parce qu'il a trafiqué pendant la guerre d'Espagne. Villefort, pareil, tous ils ont la Légion d'honneur, ils sont, et on voit bien ce côté aussi dénonciation de certaines pratiques.
Vous nous avez parlé à un moment donné de la mère dans le roman catholique. Et quelles sont les autres figures féminines dans le roman classique, dans ce roman catholique, etc.
Pareil, en France, il n'y avait pas de bagne pour femmes. Mais dans ce roman-là, on trouve la prison pour femmes, la roquette. On voit bien dans Rocambole, il y a un épisode où Rocambole va sauver une jeune femme emprisonnée à la roquette. Dans Les Mystères de Paris, pareil. La Louve, elle était en prison, c'est là où elle va aider Fleur de Marie. Pareil, mais c'est lié plus au monde, la prostitution, etc. Mais là encore, derrière tout ça, il y a aussi le discours hygiénique, là. Souvent, on trouve le champ lexical de la maladie, quand même, de la médecine. Dans Les Misérables, 1832, ok, c'est la marque, les révoltes, mais 1832, c'est quand même l'année du choléra à Paris. Ou alors, des années, on est infesté par la maladie et les classes laborieuses, c'est quand même les classes dangereuses. Il y a aussi cette idée d'épidémie, de choses comme ça, voilà. Et il y a quand même un discours hygiénique dedans.
Est-ce que Manon Lescaut ne va pas partir au bagne?
Non, Manon Lescaut, elle part en Louisiane, comme c'est une prostituée. Parce qu'à un moment, qu'on avait fait pareil avec l'Australie, on avait dit à toutes les prostituées d'Angleterre d'aller épouser des bagnards pour qu'ils aient des terres, des colonies. Mais ça, on avait fait pareil à la Réunion, mais pas aux États-Unis, il me semble pas. Elle part dans le Nouveau Monde. Oui, puisqu'elle meurt dans le désert où elle expie ses fautes, quoi. Il y a tout un... En revanche, le personnage de Defoe, Moll Flanders, on voit bien le côté la prison pour femmes, le côté... Dans la littérature anglaise, là, il y a beaucoup plus de personnages. Et c'est aussi lié avec l'Australie, qui est quand même un bagne au départ. Hein.
La bibliothèque populaire d'Anières, on a suivi Albert Londres. La Chine en folie, le chemin de Buenos Aires, le Jupéran est arrivé, le pêcheur de perles et chez les fous. Et dans le Réunion Histoire, il y a vers Londres, commis l'Apschutz ou le terrorisme dans les Balkans. La seconde chose, c'est un témoignage personnel. J'ai eu la chance et l'opportunité, finissant les études d'école de bibliothécaire, de travailler pendant un an à l'hôpital Hospice de Nanterre avec des anciens bagnards, justement au moment où Charrière a sorti son livre. Et alors moi, ça a été très surprenant pour moi, parce que j'étais bagnard, et ils couvraient les livres, voilà leur travail. Hein. Et ils me racontaient des choses que moi j'ai retrouvées après mon Charrière. C'est un souvenir impressionnant. Ils ont fini leur vie là.
Ce que je vous dis, Charrière a donné un second souffle. Bon, il raconte une histoire, il s'approprie des évasions qu'il n'a jamais faites et autres, mais ce qu'il raconte, la vie dans les bagnes, etc., oui, c'est intéressant.
Alors vous en doutez que... C'était très délicat pour moi d'en parler, mais c'était en sous-sol et c'était des cellules avec des barreaux. Hein. J'étais pas emprisonnée avec eux, mais enfin un peu quand même.
Hein. Alors c'est des gens qui terminaient leur peine, enfin, ils étaient toujours emprisonnés.
Ils terminaient leur peine, hein. C'était déjà des gens âgés. Hein. Bien sûr, ils ne fréquentaient pas du tout les salles, parce qu'à l'époque, c'est dans le cadre de la bibliothèque des malades. Hein. Ils n'avaient pas le costume de bagnard, hein, là, hein. Mais ils avaient le costume bleu, c'était de l'enfer. Et en fait, j'avais été alertée, pas directement, à propos de Charrière, par l'aumônier à Colombes, parce qu'on a fait le petit Colombes près de Nanterre. Il y avait donc le curé de Colombes, qui était fils de Jacques Des, près d'ouvrier, et qui était aumônier à l'hôpital de Nanterre. Mmh,
ah oui.
Et c'est lui qui m'a demandé si j'avais lu Papillon, parce qu'il avait été assez étonné des récits de ces bagnards. Et ils savaient que je travaillais avec eux, et en fait, ça correspondait. Et c'est vrai que quand Papillon épinglé est sorti, je me souviens très bien, moi j'étais à ce moment-là en bibliothèque publique, et je me souviens très bien que les gens se sont précipités, parce que c'était quand même très fort, hein, Papillon. Hein.
Ah oui, bah oui, le mythe, c'est cool. Ouais.
Je vais défendre un peu la mémoire de ces bagnards non connus. Charlie a raconté des choses qui lui étaient arrivées à lui, alors que c'était arrivé à plusieurs.
Comment on peut expliquer ce grand succès, justement?
C'est venu presque à une année près, avec 68. Papillon, c'est quand même l'exotisme, l'aventure, c'est le type qui se rebelle et tout. Ça arrive à un moment de changement où on veut justement casser le...
Il y avait déjà des interviews à la télé. Une petite question perfide, est-ce qu'il n'y a que des coupables au bagne?
Le héros qui est au bagne est plutôt innocent. au bagne, il y a des espèces d'inimitiés qui se font et où on règle les comptes, mais en dehors, contre des bandes rivales de bagnards. Ou alors, les vrais coupables, c'est les soufifs. Mais le héros, généralement, est innocent. Bon, Jérémy, c'est un coupable, il a tué, mais comme il le dit, ça a toujours été à cause de la fatalitas. Ils sont coupables dans leur innocence et innocents dans leur culpabilité. Hein. C'est le côté oxymorique du héros. Hein. C'est bien dit, Jean Valjean, il vole quand même un pain, on se retrouve au bagne. Une grande date quand même dans l'histoire du droit de la justice, c'est seulement à partir de 1832 qu'on reconnaît les circonstances atténuantes. Hein. Avant 1832, t'allais au bagne quand tu volais un pain. Bon, après, t'as faim, tu voles un pain, bon, c'est circonstances atténuantes.
Est-ce qu'on sait s'il y a eu des réactions des compagnons du devoir, affiliés à une société ou à une autre, depuis qu'ils sont... je dirais un petit peu dénoncé de cette façon-là dans les romans populaires, quoi. Moi, ça m'a un petit peu étonné d'entendre ça.
Non, bah, quand Balzac prend Ferragut, chef des dévorants, c'est vrai que les dévorants, c'est quand même les compagnons, mais il dénonce pas les rites compagnoniques, il dit rien sur le compagnon. Pareil, quand Georges Sand écrit le compagnon du Tour de France, on sait rien, on sait juste que les compagnons, ils font leur œuvre, tout, il y a des bagarres, des choses comme ça, mais il dénonce pas le côté occulte, donc je pense qu'il s'en occupait pas. Mais l'autre chose qui est vraie, c'est le problème des rixes, quand même. Il y en avait qui restaient sur le carreau, il y avait même des espèces de duels, mais en groupe, quoi. C'est un peu comme, je sais pas, vous voyez ce film Gangs of New York, avec leurs cannes, leurs bâtons, ils se massacraient quand même. On pourrait dire pareil, est-ce que quand Maurice écrit la franc-maçonnerie du crime et tout, les francs-maçons aussi, on peut dire que ça veut dire, on nous associe. Non, là-dessus, il y a aussi un personnage un peu ambigu, Gibassier, c'est un ancien forçat, il est à la sûreté. Déjà, Louis XV, il avait inventé ça, la police moderne, les mouchards, on prend dans les prisons et voilà, c'est...
À Saint-Martin-en-Ré, bon, la visite est très intéressante, très passionnante, il y a une exposition, et il y a surtout une grande littérature sur les bagnes, justement, sur les bagnards.
Saint-Martin-en-Ré, il partait de là pour Cayenne. Et ce mot, quand même, forçat, c'est comme dit à force, c'est une force née ou un forcené? Ou alors c'est une force qui va, comme dirait Hugo. En lisant Souvenir de la maison des morts, et quand on lit après Solzhenitsyn, et après, c'est une espèce d'intertextualité. D'accord, je ne vais pas remettre en cause Solzhenitsyn, mais il y a des choses qui sont déjà dans Dostoïevski. C'est comme si Dostoïevski avait construit une espèce de patron. Comme Balzac, qui construit le patron, ce que doit être un roman de forçat. Enfin, là, je prends un classement un peu à la Thibaudet, qui dit qu'il y a des romans de l'énergie, tout ça. Moi, je dis qu'il y a un roman du forçat, avec des thèmes convenus, une problématique convenue, etc. Pour moi, celui qui a instauré le patron, c'est Balzac.
Vous parliez de l'ambiguïté entre Jean Valjean et Cosette, de l'ambiguïté des forçats par rapport à leur sexualité. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus, enfin, Jean Valjean et Cosette?
Il y a un passage qui est frappant. Jean Valjean n'avait jamais connu de femme parce qu'il était entré au bagne très jeune. Pour lui, Cosette, c'était sa fille, sa femme, sa mère, enfin... Après, cette fameuse scène de jalousie avec Marius, quand même. Il est très ambigu, parce que d'un côté, il y a cette image de saint, un peu, de même d'ange, puisqu'il est complètement innocent à ce niveau, mais il y a cette ambiguïté-là. Et Vautrin, le mœurs qu'il a ramené du bagne, il est quand même homosexuel. Dans Splendeur et misère des courtisanes, une de ses complices, la vieille Europe, ou je sais plus, Asie, dit « ça serait bien s'il aimait les femmes, mais il aime pas les femmes, c'est ce truc flagrant ». Et c'est quand même curieux, s'il s'inspire de Vidocq, Vidocq quand même dans ses mémoires, c'est Casanova. Ça aussi c'est intéressant, les mémoires de Vidocq comme exercice de mythographie et de mythomanie. La première partie c'est écrit très 18e, il y a un côté chevalier de Faublas, il raconte ces espèces d'aventures galantes, il s'évade, etc. Et deuxième partie, la partie policier, flic, là on est très 19e, l'empreinte de Balzac. Ce côté un peu taxinomique où il décrit les différents vols, les différentes choses, le côté travail de Cuvier, on aime bien classer, taxer, tout ça.
J'ai un doute, est-ce que Vidocq a entièrement écrit lui-même ses mémoires?
Non. Vidocq, il savait parler, mais il ne l'écrivait pas. Mais c'est quand même le type qui a quand même créé la première maison de détective privée, bien avant les Pinkerton quand même, il a créé les enquêteurs privés. Il a inventé d'une certaine manière le one-man show, quand il allait au Cosmorama à Londres, il se déguisait, racontait ses aventures tout seul sur scène. Et il est mort la même année que Eugène Sue, en 1857.
On va remercier Océane.
C'est moi qui vous remercie.